Salut à toutes, salut à tous, très heureux de vous retrouver pour le 4e épisode du podcast Le Safety, votre podcast NFL bimensuel du site Dunk Hebdo. Moi, c'est Ben, et pour m'accompagner aujourd'hui, fidèle au poste, on retrouve Alan. Comment ça va, Alan?
Salut Ben, salut tout le monde, merci. Très content d'être de retour pour parler NFL un peu là.
Parler NFL dans la foulée de l'épisode, du dernier épisode, l'épisode 3 qu'on vous invite à réécouter. On vous l'avait un petit peu teasé dans cet épisode 3. Enfin, quand on avait un petit peu préparé nos sujets, moi, de mon côté, je m'étais rendu compte quand même qu'en AFC comme en NFC, dans les deux conférences, j'avais la sensation qu'il y avait vraiment comme eu un seuil et une vraie différence entre le top 2 dans les deux conférences et ce qu'il y avait en dessous. D'où l'idée de nos deux prochains épisodes, c'est de se dire, bah, de se poser la question inévitable, qui est troisième? Qui est la troisième équipe dans chaque conférence? Aujourd'hui, on va se poser cette interrogation pour l'AFC ou, selon nous, alors c'est notre postulat de départ, il est contestable, mais selon moi comme selon Alan, on se rejoint sur ce point-là, Chiefs comme Ravens sont un petit cran en dessus, au-dessus en AFC, et la difficulté, c'est de trouver qui est là pour compléter le podium. Avant de répondre à cette question, on vous invite, comme d'habitude, à nous suivre sur Twitter et sur votre application de podcast préférée. Nous, on marque une petite pause, puis on se retrouve juste après pour y voir un petit peu plus clair dans le brouillard qu'est la conférence américaine. Qui est la troisième meilleure équipe de la conférence AFC? Question simple, en apparence, puisque comment on va déterminer cette troisième équipe? Alan, est-ce qu'il faut se référer au bilan, au potentiel? Comment t'as un peu décidé de classifier les équipes?
Moi, je fais pas trop par rapport au bilan, parce que vu que tout le monde ne se joue pas, ben le bilan il peut être un petit peu tronqué. C'est un calendrier plus simple. Faut rappeler que si par exemple t'as fini 3e ou 4e de ta division l'année d'avant, tu auras un calendrier plus simple parce que tu joueras les 3e et 4e des autres divisions de ta conférence. Donc moi j'ai plus basé sur le potentiel en play-off, qui a la meilleure chance de pouvoir atteindre la finale de conférence. En gros, si jamais on part sur un format play-off à 6 et maintenant à 7, qui peut aller gagner 2 matchs à l'extérieur, peut-être le premier à domicile, mais le second à l'extérieur, pour aller titiller, aller en finale de conférence.
D'accord. Alors moi, on en a discuté avec Alan. J'étais globalement d'accord avec cette position-là, à une exception près, c'est que selon moi, c'est une façon de penser qui désavantage énormément les équipes de l'AFC West, parce qu'on peut partir du principe que les Chiefs vont probablement avoir le meilleur bilan de l'AFC l'année prochaine, ce qui veut dire que ces équipes-là vont devoir n'auront probablement pas de bye du premier tour et vont devoir aller gagner de nombreux matchs à l'extérieur pour arriver jusqu'à la finale de conférence potentielle. Ça donne aussi un désavantage un petit peu plus léger aux équipes de l'AFC Nord, et à l'inverse, je trouve que ça avantage les équipes de l'AFC Sud et l'AFC Est qui sont pas dans la division d'un des deux ogres de cette division. Mais en tout cas, c'est le critère qu'on a décidé de garder. Alors ensuite, on a bien sûr pas, on pense que c'est ouvert la course à la troisième place, mais on n'est pas de là à dire que tout le monde peut y arriver. Donc Alan, on a décidé d'éliminer des équipes de cette course. On va en parler un petit peu rapidement de ces équipes éliminées. Allez, on commence par une division qui t'est chère, l'AFC Est.
Ouais, je pense qu'on s'est mis d'accord sur les Dolphins et les Jets. Je vais parler un petit peu du cas Miami. Je pense que on aime tout ce qu'on est. On peut aimer ce qu'ils ont fait. Moi, j'aime ce qu'ils ont fait à la draft. J'aime ce qu'ils ont fait dans l'intersaison. Ils ont ramené des... En fait, il faut vraiment se dire qu'ils ont ramené des joueurs qui sont minimum average. Et donc, ça va les aider parce que l'année dernière, tu regardais des fois. Là, c'était une équipe où il y avait plus de turnover. C'est-à-dire, je sais pas combien il y a eu de joueurs utilisés dans cette équipe. C'était incroyable. Ils allaient prendre sur les practice squad et les mecs étaient limite starters le week-end d'après. Donc là, avoir déjà des joueurs, tout le monde dit ils ont pris beaucoup de joueurs, au moins ça fait des joueurs au moins minimum corrects. y a Byron Jones qui arrive et qui va superbement aider leur défense. Et puis voilà, ils ont drafté Tua. Je pense que ils ont pris Chan Gailey qui connaît Ryan Fitzpatrick. Je pense que ce sera Fitzpatrick qui aura sûrement le job. Peut-être Tua qui va jouer un petit peu. Voilà, c'est 2 ans trop tôt pour eux. Mais moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Mais voilà, ils sont pas dans cette course à la troisième place.
Je te rejoins largement et je vais parler des New York Jets qui ont un bilan, qui ont quand même eu un bilan de 7-9. En regardant les
Ouais,
bilans à nouveau, je me
disons.
suis dit 7-9? Tu vois, je m'en souvenais plus de ce 7-9 pour les Jets. Après, et j'ai l'impression que ça va être un petit peu la même analyse pour beaucoup d'équipes de l'AFC Est. La défense a des certitudes. Alors là, il y a l'imbroglio, Jamal Adams partira pas, on ne sait pas. Ça reste une défense qui est, je pense, on peut le dire top 10 NFL. Enfin, vraiment, c'est une défense solide. Alors que leur gros investissement, CJ Mosley de la saison dernière n'avait pas vraiment joué, blessé
Williams aussi, qui n'a pas été très bon.
Williams aussi. Enfin, blessé pour pratiquement l'intégralité de la saison, les deux renforts théoriques. Donc, on critique le coordinateur défensif Greg Williams, mais il réussit à faire marcher ses défenses. Après, je pense que la question elle est autour d'Adam Gase et plus globalement de l'attaque, qui certes a vu des renforts au niveau de la ligne, au niveau des Sid Perryman et Denzel Mims à la draft, mais ça reste quand même beaucoup trop juste. J'ai trop de questions en attaque en fait. C'est une équipe NFC Est de 2020. Je suis serein sur la défense, j'ai des grosses questions sur l'attaque.
Ouais, rien à rajouter. La ligne est. Ils ont pris Becton, mais c'est pas assez encore.
Ouais, c'est encore trop trop juste, encore peut-être comme tu l'as dit pour les Dolphins, quelques années trop tôt. On se décale du côté de l'AFC Nord, là encore
Ouais.
deux équipes qui n'ont pas passé le cut.
Ouais, les Bengals parce que c'était la pire équipe NFL l'an dernier. Peut-être qu'ils ont fait exprès au bout d'un moment pour aller récupérer le premier pick et Joe Burrow. Ils ont fait une draft on sait, tu vois, je vais dire correct, on n'en sait rien en vrai. Mais moi j'attends surtout le fait que voilà, il y a leur premier pick de l'année dernière, le tackle d'Alabama qui va revenir. Jonah Williams, ça va leur faire grandement du bien parce que déjà l'année dernière il y avait des très mauvaises lignes, mais ils avaient sûrement la pire. Genre tu peux plus starter Bobby Hart, tu vois. Genre non. En 2020, Bobby Hart, tous ces gars-là, Billy Price qui avait été sélectionné. Premier tour qui est une catastrophe aussi. Bon, je suis peut-être un peu dur, mais qui vaut pas un choix aussi haut. Ils ont investi un peu sur la free agency, ils ont payé des joueurs. Mais voilà, je pense que ça va être Joe Burrow qui va avoir les manettes. Il a quelques armes à ses côtés, mais la division, il y a quand même deux belles équipes dans la division. Et voilà, c'est trop tôt encore. C'est une équipe qui a drafté son QB, qui va être dans son contrat rookie, qui va pouvoir investir. Mais voilà, elle n'est pas prête pour aller en playoff l'année prochaine.
Quant aux Browns, petit astérix à côté des Browns, parce que pour moi c'est une équipe qui aurait pu peu se mêler. De toutes les équipes là qu'on va lister, c'est celle dont je serais le moins surpris de voir finir. Enfin, si je les vois finir 3 les Browns, ça serait une petite surprise, mais c'est pas totalement inconcevable pour moi. C'est une équipe qui a On l'a dit, hein, on vous invite à écouter par exemple notre épisode draft. C'est une équipe qui reste extrêmement solide. Ils ont réussi à adresser le poste de tackle gauche qui était leur grand besoin. Ça reste extrêmement talentueux. On a viré Freddy Kitchens du côté des Browns et je pense que c'était la bonne idée parce que au niveau du play calling, c'était une catastrophe et Baker Mayfield va être dans de meilleures conditions pour sa troisième année. Alors que les critiques de son côté font leur retour. Du côté de, enfin les doutes quant à Baker Mayfield font leur retour. En plus, j'ai peut-être tendance à surestimer les Browns, cas classique du supporter qui est traumatisé par une équipe qui pose énormément de problèmes. Les Browns posent vraiment des problèmes aux Ravens. Et à chaque fois que je vois jouer les Browns face aux Ravens, je me dis que c'est une équipe extrêmement talentueuse. Et je suis pas loin de penser que juste sur le papier, enfin sur Madden, les Browns c'est peut-être le quatrième ou troisième meilleur roster de l'AFC. C'est juste que il y a peut-être un manque de structuration. Mais j'ai quand même du mal à parier pour les Browns, quoi. C'est juste, il y a peut-être cette limite-là.
Ouais, c'était la hype de l'année dernière. Est-ce que voilà, quand on les attend pas, ils vont pouvoir répondre présent. L'année dernière, c'était un beau foutoir, on va pas se mentir. Mais ça reste un effectif très talentueux qui a rajouté Austin Hooper, donc en tight end, c'est vraiment bien. Ils ont pris Conklin, Jedrick Wills, donc l'extérieur de la ligne qui était problématique, normalement va être amélioré. Et après, voilà, c'est défensivement, ils vont récupérer Miles Garrett aussi, qui avait loupé une bonne partie de la deuxième partie de saison. Et oui, il y a beaucoup de talent dans cette équipe. À voir si les pièces vont bien s'emboîter, est-ce que ça va être une équipe plus qu'une somme d'individualité. Ouais.
Ouais, clairement, s'ils ne font pas encore une saison, je dirais même à titiller les playoffs, il y a des choses qui vont bouger du côté de Cleveland, c'est une certitude. On descend sud des États-Unis, AFC Sud, seule division où une seule équipe n'a pas fait le cut, ce qui veut bien sûr dire que les trois autres l'ont fait. Ce sont les Jacksonville Jaguars, Alan, qui sont plus ou moins dans une opération de reconstruction slash tanking.
Opération Trevor Lawrence 2021 ou Justin Fields, je sais pas, mais ouais, bah c'est un petit peu le résultat. Déjà, les Jaguars vivent aujourd'hui le résultat d'avoir été si proche d'aller au Super Bowl il y a 3 ans, après d'avoir fait une série de mauvais choix et d'avoir, voilà, là cet été, on a vraiment dégraissé l'effectif. Tous les gros sages ou de free agency de 2015-2016 qui avaient permis à cette équipe en 2017 d'être hyper compétitive défensivement sont plus là. Je pense les deux trades, donc Bouillet et puis Calais Campbell. Ils ont quand même signé des joueurs, ils ont pas donné de l'argent à Joe Schobert au linebacker, mais voilà, c'est trop peu. Et puis l'attaque reste problématique. Minshew a fait des beaux matchs un petit peu héroïques l'an passé pour un sixième tour. Il a un peu mis de vie dans cette équipe de Jacksonville et tout ça, mais
Non,
ouais, je pense
l'attaque
que
est anémique. Enfin,
ouais, c'est ça. Et tu vois, il a réussi à la rendre un petit peu cool, c'est-à-dire, voilà, 2-3 belles actions d'éclat par match, mais en termes de consistance, c'est pas possible. Puis il y a Brooks Fournette, malheureusement, c'est 4 ans après, ça reste. Ça pouvait se défendre, ça reste un choix qui leur fait un peu de mal s'ils avaient pris un autre type de joueur. Donc je pense que voilà, ils vont se diriger vers trouver peut-être le QB du futur, c'est le nouveau modèle de toute façon. Donc voilà.
Ah, Alan qui tacle les running backs sélectionnés. Oh, la case est cochée dans son petit cahier. Et enfin, on finit du côté de l'AFC West. Division où trois équipes n'ont pas fait le cut. Alors là, les plus malins auront compris que si on met les Chiefs sur un piédestal, ça veut dire que tout le reste de la division, en fait, n'y est pas. Dont les Denver Broncos. Et Alan, on va s'arrêter un petit peu. On va pas passer trop de temps sur ces équipes, voilà, qui n'ont pas passé le cut. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est que quand on vous a posé la question sur les réseaux sociaux, hein, Twitter, le Safety Podcast, on vous invite à aller nous suivre. On vous avait tout simplement demandé, on vous avait indiqué qu'on allait enregistrer le podcast sur ce sujet. Et on a eu notamment Boogie93 qui nous a dit Broncos. Et on a eu Lilian qui nous a dit Drew Lock peut-il confirmer avec les Broncos? Et j'ai l'impression que ça s'inscrit, Alan, dans une hype. Le mot est peut-être fort, mais j'ai l'impression que les gens commencent à vraiment croire en cette équipe des Broncos menée par Drew Lock.
Ouais, parce qu'ils ont bien fini la saison. Tu vois, c'est un peu le combo. Tu finis bien la saison, t'as un jeune QB, et on salue ta free agency et ta draft. Et là, c'est le cocktail. Le cocktail qui fait que tu dois être potentiellement dans une équipe qui doit être sur la pente ascendante. Ce cocktail-là, ils l'ont fait parce qu'ils ont fini la saison correctement. Drew Lock a montré des choses. Et puis tout le monde a salué à peu près ce qu'ils ont fait pendant l'intersaison, que ce soit la draft ou que ce soit des trades un petit peu. Ils avaient du cap, ils ont décidé d'utiliser le cap non pas pour signer vraiment trop de free agency, mais pour en gros aller chercher des joueurs, Jurrell Casey et Jay Bouillet qui vont pouvoir aider leur défense. Moi j'aime bien ce qu'ont fait les Broncos, on en a déjà parlé dans le dernier épisode, même dans celui d'avant. J'aime vraiment vraiment bien, mais le problème c'est ils sont dans la division des Chiefs, c'est qu'il y a un calendrier qui est un petit peu compliqué. C'est très important le calendrier quand on juge est-ce qu'une équipe peut aller en playoff. Et puis aussi, voilà, je pense que tu en parleras mieux que moi, Drew Lock, c'est qu'une fin de saison, on attend une vraie confirmation sur 16 matchs.
Totalement, ouais. Fin de saison, tu l'as parfaitement dit, fin de saison d'un QB rookie. Bien souvent, on se dit, on prend l'échantillon de fin de saison, voilà, on le fait passer, on le multiplie par deux, et on se dit, ah, c'est ce qui va être en deuxième saison NFL. Attention quand même, on sait que voilà, les coordinateurs offensifs ont tendance à mettre en place des jeux pour faciliter les lectures. Le cahier de jeu va peut-être s'ouvrir un peu plus, surtout avec les cibles qui ont été ajoutées. On pense notamment à Jerry Jeudy, avec les cibles qui ont été rajoutées. Je pense que se baser sur la fin de saison d'un Drew Lock pour se dire ça va, c'est ça qu'on va pouvoir espérer de Drew Lock en saison 2, c'est faire une erreur. C'est faire une erreur aussi de juger que toutes les cibles qu'ils ont accumulées et peut-être leur pari sur l'attaque est le bon pari. Parce que, certes, leur défense est meilleure que leur attaque, mais je pense que leur défense avait quelques besoins et je sais pas s'ils ont été particulièrement adressés. Enfin, bref. C'est une équipe, je pense, qui peut, penser playoff jusqu'à semaine 10, 12 et ensuite va être rattrapée par le niveau de sa division et surtout en haut, le niveau des autres équipes en AFC parce que autant, et sans trop passer trop de temps sur eux, autant il y a une question autour du numéro 3, mais on va voir que toutes les équipes qu'on va citer pour être numéro 3, je les mets toutes au-dessus des Broncos en fait. Donc ça fait quand même un paquet d'équipes qu'il faut sauter.
Ouais, exactement. Et elles vont les jouer aussi, ces équipes-là. Elles vont quasiment toutes les jouer. Donc ça va être, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Puis en fait, défensivement, c'est plus le système qui est fort que les individualités.
Totalement.
Vic Fangio, super coordinateur défensif, je l'ai dit, je le répéterai. Mais c'est pas la même défense qu'ils avaient 2015-2016 où c'était vraiment là, les individualités. Wade Phillips, c'est très bien, mais c'est des énormes individualités. Là, après, tu peux dire même qu'ils vont récupérer Bradley Chubb qui a été blessé. Von Miller est toujours présent. Ils ont rajouté Bouillet et Casey. Après, quand même, il y a des points d'interrogation dans cette défense. Et moi, c'est plus l'attaque, je suis comme toi. Je pense que la défense sera pas horrible, elle sera bonne. Est-ce que, voilà, par contre, Drew Lock va connaître le pont que beaucoup lui promettent. J'en suis pas encore persuadé, donc il faut que je le voie pour le croire.
Et puis, alors, ça va être une petite séquence, un petit mot là-dessus dans quelques minutes, mais c'est potentiellement une des équipes qui pourrait être le plus désavantagée par une saison NFL étrange, entre guillemets. C'est-à-dire, si on se met plus à jouer dans les stades à domicile pour toutes les équipes, enfin, on est à un moment où on sait pas trop ce qui va se passer. Clairement, les Broncos, si on joue pas à Mile High, ils perdent un avantage considérable directement. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte.
Coordinateur aussi, en plus, offensif.
En plus. Quelques mots rapidement pour finir. Los Angeles Chargers, alors on a beaucoup parlé des Chargers dans notre dernier épisode. On vous invite à aller l'écouter. Alors globalement, c'est Alan PFF. Il aime pas Justin Herbert, donc voilà. Non, je pense qu'on peut résumer ça. Grosse équipe, mais on pense que peut-être le poste de QB va faire défaut. Moi, encore une fois, à l'image des Browns, j'ai pensé peut-être les mettre là, mais il y a un moment, je me suis dit. Puis c'est les Chargers, c'est aussi les questions au niveau de l'équipe spéciale qui trouve toujours des moyens de faire des trucs au niveau du poste du kicker. Ils vont se blesser. Enfin bref, ça reste les Chargers.
Ouais, et puis moi ce que je me dis, c'est qu'ils pourraient être là, tu vois. Ils pourraient. Mais il suffit que Tyrod Taylor soit mauvais 2-3 matchs et ça va commencer à appeler pour faire jouer Justin Herbert. Et là après, ça sera plus comme Drew Lock de l'évaluation de fin de saison, plus que vraiment une équipe qui peut être. Candidate à quelque chose, je pense.
Puis est-ce que, avant de parler des Raiders, est-ce qu'on croit à leur capacité? On l'a dit, il faudra aller gagner deux matchs à l'extérieur, possiblement. Aller gagner deux matchs à l'extérieur en playoff avec soit j'adore Tyrod Taylor, mais ça reste Tyrod Taylor ou un QB rookie.
Franchement, c'est compliqué. Et puis en plus, comme tu vois, toutes les divisions, elles ont au moins un mauvais élève. Voire deux, des fois, où tu peux te dire, ah, c'est deux matchs, ou voire quatre, où c'est déjà dans l'escarcelle, tu vois. Là, les Chargers, les Raiders et les Broncos, derrière, ils vont se tuer entre eux, tu vois, j'ai l'impression.
Ouais, très juste.
C'est un argument qui peut te faire dire qu'ils n'auront pas le nombre de victoires nécessaires pour aller en playoff dans une position avantageuse.
Totalement. Et enfin, les Raiders, pour finir. Encore une équipe dont on a pas mal parlé dans nos premiers bilans de la draft et leur sélection de Henry Ruggs. Alors, je t'avoue, c'est ce que je t'ai dit avant de commencer l'épisode. Je t'ai dit, j'ai éliminé les Raiders. Je sais pas vraiment quoi dire sur eux, mais on les a quand même éliminés parce que, bah, tout simplement, ils sont pas encore assez bons. John Gruden remodèle complètement l'effectif. On en est année 2 de la reconstruction. C'est encore beaucoup trop jeune. Je reste persuadé qu'il y a quand même l'interrogation autour d'Derek Carr dans le front office qui me fait dire que c'est pas encore la forme ultime qu'ils souhaitent au niveau de leur effectif. Puis il y a encore des trous au niveau poste de cornerback, etc. Enfin, il y a encore des questions.
Ouais, le nombre de nouveaux joueurs dans cette équipe, c'est quand j'ai été regardé, c'est impressionnant. T'es un vétéran avec un peu d'expérience, allez, hop. Et puis t'es un joueur de Alabama, Clemson ou Ohio State, ben on draft. C'est fou, mais c'est un peu vrai. Je pense que voilà, ils vont. L'année dernière, j'ai pas trop compris des fois ce qu'ils ont fait. Surtout dans leur backfield défensif. Enfin, tu mets beaucoup d'argent sur un joueur comme Joyner et tu le changes de position. Abraham s'est blessé, ça les a pas trop aidé. Moi, comme je t'ai dit dans le récap qu'on a fait, leur défense, elle va marcher si leurs deux choix très hauts de corner fonctionnent. Et il y a pas mal de gens qui ont été un peu critiques de ça. On aura la réponse de toute façon. Parce que tu as besoin d'avoir des corners encore plus dans cette nouvelle division de la FC. FC West, je pense que pour les mettre, tu vois, en candidat, faut croire en Derek Carr, faut que John Gruden croit en Derek Carr, et j'en suis pas persuadé, en fait. Donc, je sais pas. J'ai pas trop, en fait, ça m'étonnerait pas qu'il gagne 8 matchs, tu vois, mais est-ce que c'est en gagnant 8 matchs qu'on peut dire en playoff, il pourrait, non. Donc, je les ai un peu éliminés de facto.
Puis, tu l'as dit, effectif très jeune, comme par exemple, parier sur, déjà avoir un cornerback rookie, qui est efficace et capable d'être mis sur le terrain sans être exposé, c'est bien. Espérer qu'un tandem de cornerback rookie performe, c'est...
Ouais, rookie, ouais, c'est... Ils auraient, sur les 5 qui starteraient, ils auraient 2 sophomores, un dont qui s'est blessé l'année dernière, un rookie, donc, et un joueur de 3e année, donc franchement...
Ouais, c'est très très jeune.
Ouais. Même c'est si très, très... rajeunit, c'est quand même dans un poste où il faut un minimum d'expérience, quoi.
Ouais, totalement. Alors, on devait faire un petit point Corona. Alors non, un petit point Corona dans l'évolution et l'impact que ça aura. Alan, je te propose de le faire en le mixant un peu avec nos équipes, du coup, candidates. Vas-y. À ce troisième, ce podium en AFC. Donc, si vous avez suivi, ça nous laisse en AFC Est les Buffalo Bills et les New England Patriots. En AFC Nord, les Pittsburgh Steelers. En AFC Sud, les Tennessee Titans, les Indianapolis Colts et les Houston Texans. Et personne, comme on l'a dit, en AFC Ouest. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a classé ces 6 équipes, 6 prétendantes de 6 à 1. On va donc remonter compte à rebours. On ne s'est volontairement pas dit nos classements avec Alan pour qu'il y ait un petit peu de surprise. Alan, on va commencer avec ton 6e. J'ai quand même la sensation qu'on va être sur la même équipe.
J'ai les Colts.
Ah, alors non. Ah tiens, première surprise.
Ouais, j'ai les Colts. Alors j'aime beaucoup les Colts, hein. Mais tu m'as un petit, on s'est peut-être auto convaincu. Tu m'as convaincu dans tes arguments il y a 2 semaines et je t'ai convaincu dans les miens, limite, je sais pas. J'ai les Colts parce que même si j'aime bien ce qu'ils ont fait. Déjà j'ai regardé un petit peu, donc si on peut parler de ce qu'ils ont fait, hein, ils ont donc les deux grosses signatures, c'est ramener Philip Rivers et puis DeForest Buckner. On parlait un petit peu du backfield défensif la semaine passée, ils ont signé juste après l'épisode TJ Carey, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un joueur qui a des snaps
pas grand chose.
Il y a Xavier Rhodes, ils ont ramené Trey Burton aussi pour, juste après qu'on, en fait ils ont signé 2 mecs juste après qu'on enregistre, c'était super sympa pour moi, merci, parce que pour le poste de tight end il y a une draft que j'aime bien, mais je me dis ils ont quand même, en fait il faut pour qu'ils aillent et ça va être un peu le cas avec les 3 équipes de cette conférence là, il faut qu'ils gagnent les face à face contre les Colts et les Texans, et contre les Texans et les Titans pardon. Et je me dis, même si je les vois meilleurs, ils sont peut-être meilleurs que certaines de ces équipes, mais je les vois potentiellement perdre ces matchs, en fait. Même, c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne on en parle souvent. Il faut qu'ils blindent dans le début de saison, comme on l'a dit. Ils ont des matchs faciles. Deux fois, il faut qu'ils battent deux fois les Jaguars, il faut qu'ils battent les Bears, les Jets, les Bengals, il faut qu'ils arrivent à gagner à Détroit. S'ils sortent de ça avec des grosses victoires, là, je pourrais changer mon classement, mais Rivers arrive, même si je l'avais dit, voilà, l'expérience avec Frank Reich, il y aura peut-être une adaptation. Il a quand même passé 15 ans dans la même franchise. C'est notable. Et puis, en fait, moi, je pense qu'il y a des joueurs qui vont progresser, mais s'il n'y a pas cette progression, interne, ça peut être un peu plus compliqué.
Alors oui, on s'est probablement convaincu. On a convaincu l'autre et du coup on a changé de position. J'ai les calls plus haut. Alors par rapport à ce que tu as dit, je suis assez d'accord. Après, ça vaut ce que ça vaut parce que les équipes ont changé. C'est la NFL, le turnover est permanent. Les calls ont quand même historiquement toujours posé problème aux Titans et aux Texans. C'est des équipes qui battent constamment. Je reste persuadé que je pense, enfin. Ça, quoique ça, il y a débat, mais je pense que Frank Reich est le meilleur coach de la division. Même si j'en parlerai plus tard avec une équipe, Alan va probablement savoir où je veux en venir. Je pense que parmi nos 6 équipes restantes, elles sont toutes bien coachées, plus ou moins. Bill O'Brien se fait tacler pour son poste de GM. C'est fantaisie de GM, mais je pense qu'en termes de coach, c'est pas ce qui se fait de pire en NFL. Donc, je vois les Colts comme une équipe solide. En fait, pour moi, les Colts, c'est parmi les 6 équipes qu'on a, celle dont je vois le moins de vagues arriver, je pense probablement. C'est-à-dire que je les vois pas 3, mais je les vois pas 6. Pour moi, pour parler tête de série, ils vont être 4, 5 peut-être. Je les vois très difficilement quand même finir derrière Colts, Titans et Texans. Donc. Je me dis qu'ils ont quand même une défense solide. En fait, ils sont, comme je te l'ai dit il y a 2 semaines, ils sont moyens partout. Donc, je me dis, ça risque d'aller. Mais c'est sûr que, pour moi, ils sont très loin d'être troisième. Mais c'est assez marrant de voir, comme on l'a dit, qu'on s'est convaincus, tous les deux. Et on vous invite pour plus d'analyse des calls à aller écouter, bien sûr, cet épisode. Pas spécial calls, mais on a passé bien 20 bonnes minutes à discuter des calls. Mon classement, sixième, les Houston Texans. Et moi, je me suis même posé la question, est-ce qu'on les met vraiment parmi les six? C'est-à-dire que... Alors, on me dira qu'ils sont quand même... Durant les playoffs, les derniers playoffs, ils sont quand même à une mi-temps d'être en finale AFC. Ils sont à une mi-temps. Je l'entends, c'est vrai.
Un quart-temps,
Le... Ouais,
quatre-trois quart-temps, parce que ça va vite quand même dans le deuxième.
ouais. Ils sont pas loin de réussir l'exploit à Kansas City. Après, alors je sais qu'il y a souvent le refrain à Deshaun Watson n'a pas d'aide sur la ligne, Deshaun Watson n'a pas d'aide dans son corps de receveur, Deshaun Watson a des running backs surpayés maintenant. Et moi, je me suis aussi Oh, enfin, j'étais horrifié en m'attardant sur leur défense. Leur défense n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années. JJ Watt fait des allers-retours incessants avec l'infirmerie. On sait ce qui est arrivé avec Jadeveon Clowney qui a été tradé. Whitney Mercilus qui était souvent, on avait dit, l'homme de l'ombre. Enfin, a lui aussi baissé en niveau l'année dernière. Au niveau du poste de cornerback, on avait ramené Vernon Hargreaves quand même. Enfin, c'est pour dire l'état de désespération. Garen Conley, enfin tous les anciens premiers tours qui avaient pas marché étaient ramenés. Bradley Roby est du coup le corner numéro 1, mais j'ai quand même la sensation que c'est tout sur Deshaun Watson. Et ça se comprend parce que c'est le 2 ou 3e selon les classements qu'on fait meilleur QB de la FC. Mais pour moi, c'est trop dépeuplé autour pour que cette équipe fasse du bruit.
Ils ont fait une intersaison délicate. Non, parce que tout le monde parle de DeAndre Hopkins, mais ils ont aussi perdu, pour moi, hein, un des joueurs les plus sous-cotés de leur défense, c'est DJ Reader, qui a pris un paquet d'oseille du côté de Cincinnati. On est content pour lui, mais il laisse un bon trou dans la ligne défensive des Texans. Ils ont perdu Tashaun Gibson, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un starter correct. Au poste de safety. Puis quand moi trop de Jalil Adai,
Ça te donne de l'urticaire.
ça me pose problème. Et puis tu regardes les additions de la saison, à part la draft, bon, trade pour Brandin Cooks. Brandin Cooks, c'est une très belle cible lointaine, mais il a tellement de problèmes de commotion que bah, ça me pose problème. Randall Cobb. En fait, ils veulent le corps de receveur le plus petit, je crois. Ils ont Will Fuller, Randall Cobb, Brandin Cooks et Kenny Stills. C'est que des petits. Ils ont
Ouais,
que des. Tu vois?
Ça te fait pas penser un peu à ce qu'on a Copycat League sur ce qu'on a pu dire du modèle d'un Kyle Shanahan de
Ouais, un
receveur?
peu. Ouais, beaucoup de yards après contact, tout ça, ouais, c'est clair. Ils ramènent David Johnson. Tu vois, en fait, David Johnson, il est pas mauvais, mais Carlos Hyde a fait une très bonne saison l'année passée. Il sera peut-être pas
Ah,
meilleur
il en
que.
démord pas.
Non, tu vois, mais il sera peut-être pas. Non, il sera peut-être pas. Non, en fait, c'est pas ça, c'est juste. Il sera peut-être pas meilleur que Carlos Hyde, donc c'est même pas un upgrade, tu vois, c'est juste ça que je veux dire.
Ouais,
Tu vois,
non, mais oui, je comprends.
sera peut-être pas. Tu vois, et puis. Eric Murray pour remplacer, pour jouer un petit peu dans le backfield. Ils ont perdu des joueurs dans cette free agency. Le niveau de la défense baisse un petit peu. Ce que je me dis juste, c'est que, ouais, bon, moi je les ai plus haut parce que Deshaun Watson, en fait. Parce que, je pense que c'est le joueur qui peut te permettre de gagner, tu vois, l'année dernière, ils vont gagner aux Chiefs, hein, en saison régulière. Ils vont gagner aux Chiefs. Bon, ils se font
Totalement.
tamponner chez vous,
Mais
je crois, de mémoire,
ouais. Mais c'est au
par
moment,
eux.
ils prennent les Ravens au pire. Je pense qu'ils prennent les Ravens au moment où les Ravens doivent être le plus chaud de la
Ouais,
saison.
la
Donc
vague
c'est.
commence, là, le match où jouent les
Ouais,
Rams,
ouais.
c'est tout ça,
Mais
ouais. Et.
tu vois,
Vas-y, vas-y.
de tout ce que tu as dit, pour te relancer sur les Texans, de toutes les équipes qu'on va aborder, à part bien sûr les Patriots, est-ce que c'est pas celle qui s'est le plus largement. Qui a perdu en niveau?
Bah, moi, je te dirais que non. Moi, je pense que les Titans, par exemple, ont plus perdu. En termes de niveau
Intéressant.
de joueur. Je pense. Ils ont perdu des joueurs clés, les Titans. Bon, oui. En fait, c'est que les Texans, ok, ils ont perdu DeAndre Hopkins, c'est un top 3 receveur. Tu m'as convaincu. On en parlait. C'est une running joke entre nous. Et voilà. Et c'est vrai. Mais ils ont. Ouais, tu me diras, ils ont perdu
Parce qu'ils ont
Reader.
quand
Ils
même,
ont.
on dit beaucoup Watson, et à juste titre, mais l'importance de DeAndre Hopkins dans cette attaque, elle est incroyable en fait. Et le perdre lui pour le remplacer numériquement par Brandin Cooks, ça me fait extrêmement peur quand même pour la production offensive de cette
Oh,
équipe.
c'est pas du tout les mêmes joueurs en plus, hein. Vraiment, c'est pas du tout le même type de joueur. Je sais pas ce qui va. Je suis extrêmement impatient de voir ce que va designer Bill O'Brien parce que ça va être un terrain hyper étendu. Enfin, avec il a que des sprinters, hein, dans son escouade de receveurs. J'ai hâte de voir comment ça va se faire. Il n'y a pas d'intersaison peut-être pour bosser. Je pense que bah, toutes les équipes sont professionnelles. Même si bon, il y en a des fois, nous font croire à l'inverse par certaines de leurs décisions. Mais je pense que moi, je vois les Titans, hein, qui ont perdu beaucoup de joueurs très importants, peut-être plus que les Texans. Voilà.
Mais tu vois, par rapport aux Texans, si tu vas parler des schémas offensifs que peut mettre en place Bill O'Brien, alors c'est toujours un peu ma petite limite avec Deshaun Watson, c'est qu'on sait que Deshaun Watson, c'est un joueur extrêmement talentueux, mais je pense qu'il a souvent été, dans sa carrière, même un peu universitaire, surtout NFL, mis dans le costume du super-héros.
Ouais.
Donc c'est pas, ça va être difficile, toute proportion gardée comme un Rodgers, de leur dire bon bah tu vas balancer une petite slant, ou une petite passe écran et tu vas espérer que le mec fasse des yards après catch, tu
Ouais, je vais faire le gros jeu, quoi. Parce qu'il
vois.
en est capable, il sait qu'il. Mais c'est pas comme c'est
Ouais.
fait plus
Parce
de
que
puissance, ouais.
ouais, si t'attends que l'action se développe, avec la ligne des Texans, probablement il va se passer des bricoles. Enfin, je veux dire,
Ouais.
t'auras pas 4 secondes, quoi.
Ouais, puis de toute façon, Watson a un jeu qui fait qu'il prend des sacs, comme
Ouais.
Russell Wilson aussi. C'est un truc qui est pas trop étudié, mais qui commence à l'être, c'est-à-dire, ouais, on dit là une mauvaise ligne, parce qu'on évalue pas mal les lignes sur le fait que le nombre de sacs concédés, mais si tu gardes
Ce
la
qui
balle
en
aussi,
soi, on en
t'aides
a déjà
pas.
parlé entre nous, mais ce qui en soi est un peu bête parce qu'il y a
Ouais.
des joueurs qui sont un peu plus des aimants à sac que d'autres, si on
Ouais,
peut dire ça comme
ça
ça.
pouvait être intelligent dans les années 80-90, mais maintenant, c'est plus trop la même chose. Donc, mais ouais, moi, tu vois, j'ai les Texans devant les Titans.
Eh ben, on peut continuer avec ton équipe numéro 5, qui est peut-être les Titans, alors, du coup.
Ouais, exactement, ce sont les Titans. C'est les Titans du Tennessee qui étaient quand même en finale AFC, qui ont battu les Patriots et les Ravens à l'extérieur. Et j'en ai déjà parlé dans un épisode. C'était tellement sur une vague, mais c'était un tsunami ce qui s'est passé. Avec beaucoup, et d'ailleurs, et c'est un truc qui m'a permis, beaucoup a dit Derrick Henry. Moi, c'est Ryan Tannehill hein, qui était plutôt sur un nuage qu'autre chose dans la fin de saison régulière pour les amener en playoff. Il fait une saison incroyable sur les 7 derniers matchs. Il a des statistiques monumentales avec Derrick Henry qui aide, mais aussi il a renouvelé un petit peu, il a repermis de mettre sur la carte des playmakers. Le AJ Brown qui s'est un peu révélé, qui fait une saison à plus de 1 milliard pour un rookie. Et grâce à ça les amène en playoff. Et après, en termes de match-up, ils ont vu qu'ils pouvaient rouler sur les pattes et que face aux Ravens, bah, ça marchait aussi, donc ils l'ont fait. Mais moi, c'est pas Derrick Henry qui leur permet d'aller. Il les permet sur le papier dans les 2 derniers matchs parce qu'il est énorme. Mais ce qui leur permet d'aller en playoff, c'est Ryan Tannehill. Et après, ils ont décidé de payer Ryan Tannehill. Je suis pas sûr qu'il peut refaire ce genre de performance sur 16 matchs, tout simplement. Il était sur un tel nuage que je demande à voir, en fait. Et puis, je te laisserai parler, voilà, mais ils ont perdu beaucoup de joueurs, je trouve, importants dans leur équipe.
Alors, beaucoup à dire. Je pense qu'on n'a pas. Alors déjà, pour revenir, je suis complètement d'accord sur ton analyse de la fin de saison. Enfin non, d'accord sur ton analyse du niveau de jeu de Tannehill, dont on parle peut-être pas assez, parce que Tannehill fait sa fin de saison sur l'intégralité de la saison régulière, il est pratiquement MVP. Enfin, il est sur des stats de MVP. Donc c'est, enfin pour Ryan Tannehill, c'est une anomalie, c'est clair. Je te rejoins quand même difficilement sur le fait que c'est plus Tannehill que Derrick Henry, parce que Derrick Henry, j'en ai encore des cauchemars. Je pense que les front office des
Ah, moi
Patriots
aussi.
et des Ravens en font encore des cauchemars. Et que c'est, enfin moi je le dis depuis le début de l'intersaison. L'intersaison des Ravens, elle est grandement influencée par ce qui s'est passé dans cette défaite contre les Titans. Donc là où je pense que Tannehill a eu vrai important, je pense aussi qu'un Derrick Henry a été très important. Enfin, le jeu au sol, plus globalement, des Titans, pour imposer leur tempo, permettre à leur défense de performer. Je te rejoins sur les pertes. Après, et c'est un coach sur lequel j'avais douté au début, mais il faut reconnaître que Mike Vrabel a quand même une capacité à faire produire des mecs, je vais pas dire des no-names, mais des mecs, tu vois, qui font pas forcément des gros noms, mais ils créent quand même une symbiose. C'est-à-dire que tu parles à un fan NFL qui regarde peut-être la NFL de loin, il te cite combien de joueurs de la défense des Titans?
Zéro.
Alors qu'en l'occurrence, c'est une excellente, c'est une très forte défense, et je pense qu'en plus, alors, j'ai une petite dent contre lui parce qu'il a craché dans la visière de Marshall Yanda. Pour ceux qui connaissent cette anecdote, mais leur rookie Jeffrey Simmons qui arrivait en courte saison parce qu'il était blessé et qui a fait une grosse grosse fin de saison. De toute façon, c'était un mec avec beaucoup de potentiel mais des problèmes hors terrain, on le savait dans le processus pré-draft. Enfin bref, ils ont du talent, ils ont le safety Cameron Bayard. Enfin bref, ils ont pas de all pro, mais ils ont un paquet de mecs qui sont borderline pro bowler. Et moi, je me dis que ça, Vrabel a prouvé sa capacité à les remplacer. Alors, certes, il y a des questions. La perte de Jake Conklin, elle pose beaucoup de questions quand tu te bases sur le jeu au sol. Il y a des pertes, mais moi, je me dis que c'est une équipe, en fait, c'est l'inverse de ce que peuvent être les Texans. C'est une équipe qui a prouvé qu'elle parie sur le nombre et pas le talent de quelques individualités.
Je suis d'accord. Il va y avoir vraiment besoin d'un Jeffrey Simmons là sur les 16 matchs parce qu'ils ont perdu leurs deux defensive tackles titulaires.
Non mais
Jerrell
le trade
Case.
de Gerald Casey, il reste quand même extrêmement
Ouais,
mystérieux. Enfin bref.
mystérieux, vraiment mystérieux. Ils ont perdu Austin Jackson, ils ont perdu Cameron Wake. Alors Cameron Wake, c'est un gars assez sous-coté, je trouve. C'est un mec qui aide toujours en pass rush. C'est comme Robert Quinn, il fait penser un peu à. Il est
Mais pas
toujours
au
en
même
pass
prix.
rush. Non, pas surtout. C'est très surprenant d'ailleurs le prix de Robert Quinn, mais ils ont perdu Wesley Woodyard en linebacker, ils ont perdu des DB. Pas, comme tu as dit, c'est pas forcément des super joueurs, hein, mais Vrabel avait réussi à les faire bien jouer pour lui. Tremaine Brock, qui avait été bon, ouais, plutôt avec les 49ers, Logan Ryan, ils ont perdu Delanie Walker, bon lui, c'était toujours un peu blessé. Et ce que je me dis, voilà, c'est. Il faut que je le voie. Voilà. Je dois voir. Parce que l'année d'avant, ils auraient pu aller en playoff. Ils perdent le dernier match à domicile contre les Colts. Une semaine 17, finalement, ils vont pas en playoff. Et cette année, l'année dernière, ils démarrent mal. Vrabel, quand même, elle est couronnée de dire, voilà, Mariota, non. Parce que l'attaque avec Mariota, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que les playmakers, ils n'avaient pas le ballon. Alors qu'il y a des playmakers dans cette attaque. Corey Davis, peut-être pas, vaut pas un cinquième choix de draft, mais c'est un receveur au moins solide. Et Jaybron a beaucoup de talent, ils ont Adam Humphries, ils ont des joueurs. Voilà, la ligne était très bonne. Il faut voir comment ils remplacent Conklin, parce qu'ils ont drafté un mec au premier tour, mais en même temps ils ont prolongé le Dennis Kelly. Moi j'attends de voir. Je suis pas. Je dois le voir pour le croire que Ryan Tannehill va me refaire la même saison. Parce que s'il fait pas cette même saison-là, je pense qu'ils sont moins bons que les Texans.
Après, la question se pose, je pourrais te répondre que je suis pas sûr qu'ils ont besoin d'être aussi forts qu'en fin de saison dernière pour arriver à ce troisième strapontin.
C'est pas faux, il faudra qu'ils gagnent des confrontations directes contre les Texans et les Colts. Ils ont des matchs importants aussi. Ils vont à Minnesota, à Denver. Ils jouent les Packers, les Browns, et puis après il y a des matchs plus simples. Mais faudra qu'ils gagnent les confrontations. En fait, de toute façon, c'est simple, hein. Celui qui aura gagné le plus de matchs des trois dans les face-à-face, normalement, on sera, je pense, devant, parce que vu qu'ils sont dans la même division, ils jouent les mêmes autres équipes. Donc.
Puis un dernier petit mot sur Vrabel aussi depuis le début que son expérience Tennessee. On a beaucoup les Titans sont souvent manqués pour être une équipe un peu soporifique. Sous Vrabel, ils se cassent jamais la gueule vraiment. Hein. Ils sont
Non,
toujours
alors.
solides, tu vois. Il y a jamais les trous d'air. Alors il y avait des trous d'air offensifs et peut-être pas offensifs, mais c'est toujours une équipe bien coachée qui, enfin, ça compte aussi. C'est un truc chez
Totalement.
moi qui compte, où je me dis, bah, c'est une équipe, tu sais sur quoi tu mises.
Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord sur ça. Toujours bien
Je...
coaché, qui va pas se, qui a pas se, se, tu vois, se mettre dans une mauvaise situation, qui a pas raté
Ils
une
vont pas
première
se tirer une
mi-temps
balle dans le
horrible,
pied, tu
voilà.
vois.
Ouais, je suis d'accord.
Ce qui peut être le cas de pas mal d'équipes dont on va pas, globalement, de beaucoup d'équipes dont on va parler,
Ce qui va être le
dont
qui
on
peut
va
être le cas
parler.
des Texans d'ailleurs, ce qui peut être le cas des Texans, qui
Ah,
peuvent
totalement, totalement.
être à un 21-0 à la mi-temps ou rater un match contre une équipe qui doit battre, ça peut vraiment leur arriver. D'ailleurs, je crois que l'année dernière, c'était contre les Broncos. Ils se font défoncer à la maison dans une fin d'un match de fin de saison. S'ils avaient gagné, bah, ils auraient peut-être eu une meilleure position pour les playoffs.
Alors, pour parler de ce trio Texans, Colts, Titans, j'avais les Texans 6e, j'ai les Colts 4, les Titans 3. Ça nous laisse une équipe en 5 et la crime de lèse-majesté. J'ai mis les New England Patriots 5e. Alors,
Quelle
Alan...
indignité.
Ouais, quelle indignité, quelle indignité. Ce qui laisse donc les Steelers et les Bills 1-2, hein, voilà,
Ok.
pour casser le enfin, j'ai pas donné l'ordre, mais enfin si je l'ai donné sans faire exprès. Du coup, pourquoi les Patriots si bas? Alors, je sais qu'Alan, alors, je vais faire un truc très très petit, c'est que je vais prendre les arguments d'Alan et les retourner contre lui sur ses Patriots. C'est vraiment, je m'excuse de te faire ça devant des auditeurs. Parmi toutes les équipes, qui a le moins bon quarterback? Les Patriots.
Les Bills, non, je rigole.
Genre, on sait que Josh Allen, Alan PFF n'aime pas Josh Allen, mais Josh Allen a au moins starté un match NFL et
Oui, bien sûr.
voilà. D'ailleurs, j'ai entendu une stat ultra intéressante, Alan. Est-ce que tu peux me citer? Alors, si t'arrives vraiment à me trouver, limite, je passe les Patriots premiers. Combien de joueurs NFL sélectionnés hors du top 100 à la draft et qui n'ont pas starté un match de leur saison rookie étaient titulaires première semaine de leur deuxième saison? Alors je récapitule, c'est compliqué, c'est une stat que j'ai américaine. En gros, pas dans les trois premiers tours, après le choix 100, saison rookie blanche, titulaire, saison sophomore.
Oh la colle.
Alors, c'est extrêmement dur à trouver, t'inquiète pas si tu trouves pas. Il y en a un, et d'ailleurs c'est assez récent, Trevor Siemian. Alors je dis pas que Jarrett Stidham c'est Trevor Siemian, je dis juste que ça serait quand même, alors les Patriots nous habituent à faire ce genre d'exploit, mais ce serait quand même complètement à contre-courant un mec avec ce profil qui réussirait à s'imposer en NFL. Après, je dis, on ne sait pas pourquoi. On ne sait jamais. Globalement, l'attaque et les playmakers Je pourrais reposer la même question. Je pense que des six équipes dont on va parler, c'est peut-être les Patriots qui ont les moins bons playmakers en attaque. La question se pose vraiment. Alors, il y a beaucoup de paris sur du potentiel et peut-être des paris qui ont moins marché. Enfin, peut-être Edelman cette année moins blessé. Enfin, il y a quand même des questions. Il y a toujours personne au poste de tight end, mais personne. C'est une catastrophe. Ensuite, la défense. Alors, la défense a été historique la saison dernière, mais comme tu l'as dit, la défense, enfin, on peut difficilement espérer que des Patriots qui soient aussi historiques en défense, enfin, toutes les stats avancées nous montrent qu'une défense historique comme ça, ça prend un petit coup de moins bien. Et je me dis, l'attaque l'année dernière était déjà pas très bonne. Je vois aucune raison qu'elle s'améliore cette année. La défense va prendre un petit coup de moins bien. T'as plus Brady. Tu dois jouer avec un quarterback rookie de facto qui va devoir tout découvrir. L'argument Bill Belichick, pour moi, il est même plus assez suffisant à ce moment-là.
Ok. D'abord, je suis d'accord avec pas mal de tes points. En plus de pertes aussi de cette défense. C'est-à-dire que si je suis honnête, je dois dire que si je dois avoir pour le croire Tannehill qui fait une énorme fin de saison, je dois aussi dire voilà, je dois avoir pour le croire une équipe des Patriots qui prend 3 points pendant 3 points de moins de 10 points de moyenne sur les 7 premières semaines. C'est historique. En 2020. Et le calendrier va être un petit peu plus compliqué aussi. C'est-à-dire que les Patriots vont jouer aux Chiefs, à Seattle, contre les Ravens, contre les 49ers, à Houston. On va jouer aussi, les matchs censés être faciles, qu'on doit gagner. Hors division, c'est à la maison contre Arizona et aux Chargers. On a connu plus simple, on va dire. Il y a eu des pertes, comme tu l'as dit. Surtout la défense, voilà, Van Noy, Collins, Harmon, il y a eu d'autres joueurs moins connus, je vais pas citer tout le monde, même si je connais tous les effectifs, ça sert à rien. c'est des joueurs que j'aime bien, tu vois, mais parce que toi aussi, au Raven, tu connais tous tes joueurs, mais voilà, on a perdu des joueurs. On n'a pas fait une intersaison, on a ramené grand monde. Parce qu'en fait, le plan, c'était quoi? C'était de pouvoir re-signer Brady et de blinder l'équipe. Donc, en termes de cap, on est au max, tu vois, on a le couteau sous la, on est juste à l'eau sous la gorge. Brady vient pas, à la place on re-signe McCourty, et donc on n'a plus de cap après. Le cap il s'ouvre l'année prochaine, et donc les acquisitions d'intersaison, c'est Adrian Phillips, Damien Hebert et Bo Allen. Voilà. C'est les trois joueurs qui sont censés nous aider. Damien Hebert, qui est un receveur speedster qui a pris la place de Dorsett, Phillips, qui est un bon joueur, un hybrid safety, voilà, et puis Bo Allen qui a remplacé Danny Shelton. C'est les trois acquisitions, on va pas se mentir, je mens pas. On a eu la draft, on a drafté des joueurs. Moi, j'ai les Patriots un petit peu plus haut parce que moi, tu vois, l'argument Bill Belichick, je le prends en compte plus que toi, je pense. Je pense que, voilà, si on peut. Je pense que s'il fait le choix de Jared Stidham, c'est qu'il l'a eu. De toute façon, je répète ce que j'ai dit il y a une semaine sur la question d'un auditeur. Ça fait plus d'un an qu'il l'a évalué. McDaniels est un des 5 meilleurs play callers de NFL. Je pense qu'on aura une attaque décente et une bonne défense qui peut nous faire gagner des matchs. Donc, j'étais un petit peu plus haut que toi.
Tu vois, mon petit problème avec ça, c'est que d'autres équipes dont on parle et dont on va parler dans ce groupe de prétendants ont la même recette, et j'ai l'impression que leur recette elle est meilleure, enfin les ingrédients sont meilleurs de leur côté. C'est-à-dire que la recette, on parlera des Bills après, mais les Bills ont potentiellement un meilleur quarterback, des meilleurs playmakers et une moins bonne défense, mais ça joue à peu, je pense.
Ça joue pas énormément.
On parlera des Steelers. Les Steelers, s'il est en bonne santé, ont un meilleur quarterback. On peut être des playmakers, ça se joue, mais il y a quand même Juju qui fait que tu donnes l'avantage aux Steelers. Et une défense, encore une fois, ça se joue très peu. Les Titans sont un peu sur le même, enfin, bref, j'ai l'impression que tout le monde est un petit peu sur le même créneau. Et c'est pas des peintres, les autres coachs, en fait. C'est des coachs qui, alors certes, Bill Belichick reste, c'est un monument. Mais j'ai du mal à leur donner vraiment l'avantage tant que ça. Surtout que, on parle un petit peu de jeu au sol et tout dans tous les cas. J'ai l'impression que Jared Stidham ne va pas avoir le jeu au sol pour un petit peu l'aider dans son parcours d'apprentissage de rookie. Et que, certes, Josh McDaniels, alors j'ai peut-être pas top 5 parce que je me suis fait le top 5 rapidement dans ma tête quand tu parlais. Peut-être, j'ai peut-être pas top 5, mais bref.
C'est quoi ton top 5?
Alors, quand tu parlais, je me suis dit, je mets Shanahan, je mets McVay, je mets Peyton.
Ouais.
Et ensuite, j'ai commencé à galérer, mais je me dis 5, c'est quand même haut. Passons.
Oh,
Fermons la
wesh.
parenthèse. J'en oublie ce que j'allais dire de base. Oui. Et même, tu vois, malgré les qualités de play calling d'un Josh McDaniels, Gary Kubiak est extrêmement sous-coté, entre parenthèses. Peut-être pas top 5, hein, mais extrêmement sous-coté. Je ferme la parenthèse. Il aura pas les playmakers pour lui assurer, je pense, des complétions simples. Enfin, j'ai extrêmement peur de cette attaque, en fait.
Ok.
Là où je me serais dit la défense Belichick, qu'il aurait trouvé un moyen de me sortir des mecs de North Dakota State, tu vois, qui produisent. Je me dis, en attaque, faut être honnête, hein, en attaque, il a pas les solutions, elles ont pas été mirobolantes ces dernières années.
Ah non, il y a des ratés, hein. À la draft, à la free agency, sur certains trades, ouais, il y a des ratés. Toi, tu penses que l'attaque, elle peut plafonner entre 14 et 20 à tous les matchs, en gros?
Oh, oula, c'est point. Ah, je pensais que tu parlais en classement NFL. Ah
Non.
ouais.
En points?
Ouais. Ouais, en
Ok.
points, je pense. Enfin, moi, tu vois, pour moi, c'est une nouvelle incroyable, c'est une excellente nouvelle pour les Patriots si l'attaque est top 20 NFL, tu vois. Top
Ok.
20, quand même.
Ah ouais, ok.
Parce que j'ai quand même, je trouve qu'il y a Y a pas. Puis tu vois, rien que on sait le quarterback centrisme. Brady a beau avoir 42 ans, passer de Brady à Stidham. Alors Stidham est une énigme, donc on sait pas. Mais tu perds quand même beaucoup, tu vois.
Oui, bah tout le monde a un peu bâché Brady l'année dernière, mais il était aussi victime du fait que bah, certains de ses receveurs étaient pas ouverts et que la ligne était moins bonne. On va récupérer David Andrews, le centre, qui revient de caillots des caillots de sang. Ça, c'est essentiel parce que l'année dernière, on se faisait tamponner au milieu. Et c'est vraiment bien. Mais le coach de la ligne légendaire, Skarnecka, s'en est allé. Il y a un gros turnover aussi dans le staff. Hein. Donc, mais tu vois, c'est débile, mais j'assume, je fais confiance à l'institution, en fait. Et il n'y a pas une autre équipe qui me dit. Je ne les ai pas troisième, attention, je les ai quatrième, les Patriots.
Ah, je pensais que tu les avais promis.
Non,
Donc.
je les ai deuxième, tu vois. Mais je fais un peu confiance à l'institution quand même pour me gagner des matchs qui, sur papier, on ne doit pas gagner et pas se tirer une balle dans le pied. Si tu bats deux fois les Miami, tu bats deux fois les Jets déjà, après tu vas gagner d'autres matchs, t'arraches un ou deux matchs, tu peux avoir 9 victoires. C'est peut-être trop. Voilà, tu disais ça avant qu'on enregistre, le syndrome Popovich Spurs, tu vois, au bout d'un moment, ça annule. Mais j'ai encore envie de. Bah, je me tromperai, j'assumerai en fait.
Tu vois, juste pour finir, t'as même parlé de victoire Jets, de victoire Dolphins. C'est des matchs. C'est quand la dernière fois que la division NFC Est, ça allait être si dur de gagner les 6 matchs?
Bah, 2007-2008, quand Brady se fait les croisés.
Parce que les Jets, on l'a dit, bonne défense, alors des questions en attaque, mais ça va être une équipe chiante à jouer. Les Dolphins, ils ont blindé. On a fait la récapitulative. Les Bills, que j'ai donc au-dessus personnellement, qui sont pour moi une équipe plus talentueuse à tous les étages à part l'attaque et bien sûr la défense et le poste de head coach. Tu vois, les Patriots font 5-6 dans leur division, pour moi c'est énorme, hein.
Ouais. Moi, je pense qu'on peut. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, en plus, si tu regardes les dernières, on en perd toujours un qu'on doit pas perdre. Donc,
Ouais, sur des
si
retours de coups de pied, des Hail Mary, des ouais,
t'as. Ouais,
c'est tu.
ouais. Brady qui aime pas jouer avec l'humidité en septembre à Miami, et voilà. Mais cette année, il faudra pas ça, par contre. Il faudra vraiment blinder contre ces équipes-là.
Ok. On continue à avancer. Eh ben, tout simplement, Alan, je vais te demander, t'as qui le plus haut classé, l'équipe la plus haut classée restante entre les Bills de Buffalo et les Steelers de Pittsburgh. Faut avouer que c'est un podcast qui nous fait très mal parce que tous les deux, on donne des rivaux de division très haut.
Non,
Faut aussi penser à notre santé mentale.
c'est les Steelers que j'ai le plus haut, moi.
Ah, la même. On se rejoint. Alors, on n'est pas été d'accord du tout du début à la fin, mais au moins là, on se rejoint sur la fin.
Ouais, les Steelers, parce que Mike Tomlin et parce que l'attaque sera pas peut pas être pire que l'année passée, tout simplement. La défense sera peut-être moins bonne, mais elle sera toujours à un niveau solide. Même s'il y a eu des pertes, voilà, on va commencer un petit peu sur le négatif quand même, ils ont perdu. deux joueurs que je trouvais très importants dans leur défense. Tu vas les voir mieux, plus que moi, mais Javon Hargrave et Sean Davis. Deux bons joueurs, franchement. D'ailleurs, compris de l'argent. Hargraves aux Eagles, Davis aux Redskins. De toute façon, les Redskins n'ont tellement jamais de DB qu'ils vont surpayer toutes les intersaisons. Ils ont perdu Ravon Foster, qui part à la retraite, qui était ça fait 10 ans, je le voyais tout le temps, comme guard du côté des Steelers. Mais après, à part ça, c'est pas non plus des grosses pertes. C'était des joueurs des unités spéciales. Artie Burns, qui je pense, bah, c'est peut-être pas un bust, mais dans un joueur sélectionné au premier tour, c'est
Si on n'est pas
pas.
loin.
Ouais, franchement, il a sa deuxième chance aux Bears parce qu'il a été drafté au premier tour. Mais voilà, et puis ils perdent notre ami Mark Barron Ben, qui est toujours sans emploi malheureusement. Mais
Ouais, il méritait mieux que ça. Il
exactement.
méritait vraiment il
Donc
méritait mieux que ça.
c'est pas l'équipe la plus flashy sur l'intersaison. Ils ont pas signé grand monde, ils ont signé Ricky Brown, ils ont signé des joueurs qui peuvent être backup, qui peuvent aider, ils ont drafté, ils n'avaient pas de choix de premier tour parce que Fitzpatrick était là, avait été tradé du côté de Miami. Mais voilà, je me dis, c'est une équipe super solide, ils vont récupérer Big Ben, Juju va être là, ils savent toujours développer des receveurs, donc si jamais il y a des receveurs qui se développent, ça va enlever de la pression à Juju. Il y aura toujours un jeu au sol pas horrible parce qu'ils trouvent toujours des running backs. Et donc je les vois, mais je les vois comme prétendants potentiels pour aller embêter les Ravens ou les Chiefs.
Ouais, je suis assez globalement d'accord avec tout ce que tu as pu dire. C'est une équipe quand même qui, quand elle était drivée par Mason Rudolph, à un moment quand même, a fait, j'entendais encore la stat, il y a un moment, il y a un passage de 10 matchs où ils ont fait 8-2. Ce qui est quand même incroyable, parce que pour avoir
Ouais.
vu Mason Rudolph jouer, j'ai rarement souvenir d'un quarterback aussi mauvais qui titulaire en NFL sur plusieurs semaines de suite. Hein. C'est-à-dire que c'était vraiment, il y avait rien offensivement chez les Steelers. Mais quand je dis rien, c'est-à-dire vous prenez rien et vous mettez encore plus de rien. C'était catastrophe. Franchement. Non mais honnêtement, les matchs, les Steelers Ravens cette année, c'est les pires purges offensives que j'ai vues d'un côté. Jamais vu ça. Une attaque incapable d'avancer. Il y avait rien, rien, rien. Et le fait que dans ces deux matchs, notamment celui à Pittsburgh, les Steelers soient restés dans le match, je pense que c'est un témoignage de la domination et vraiment du gros niveau de leur défense. Après, comme je l'ai dit, bien sûr, la défense, ça baisse toujours d'année en année, c'est quelque chose d'assez volatile. Après, globalement, le socle est jeune. On peut imaginer qu'ils vont être encore dans le top 10 des défenses l'année prochaine, ce serait tout sauf surprenant. Quant à des mecs comme Micah Fitzpatrick qui aura une deuxième année, bon, il n'y aura pas d'intersaison normale, mais il aura une deuxième année dans le système. T'auras TJ Watt qui va en prendre une année d'expérience. Devin Bush, middle linebacker, très important
Ouais,
dans le
bouge.
système, qui va être dans sa deuxième année. Donc, globalement, tu sais que l'équipe va être plus forte. Et Joe Hayden qui, alors, moi, Joe Hayden, je me dis d'année en année, il y a un moment où ça va s'arrêter cette espèce de seconde vie à Pittsburgh, mais ça a l'air de tenir. C'est pas trop
Ouais,
jusqu'à quand,
il y a du
mais
scotch, mais ça
ouais,
tient.
c'est pas trop comment ça se passe. Enfin bref. Et puis tu l'as dit, Chase Claypool sélectionné. Alors moi je fais déjà des cauchemars parce que ça va être encore un mec qu'ils ont sélectionné deux troisième tour qui va venir terroriser toute la AFC Nord. Moi ça me fait vraiment très mal tout ça. J'ai l'impression qu'on en revient à la même conclusion qu'on avait dans l'épisode précédent. Tout repose à peu près sur Big Ben. Et c'est là où ça m'énerve encore plus qu'ils n'ont pas un vrai QB backup, parce que cette équipe-là, elle a le potentiel pour faire du bruit en playoff. Big Ben se pète. Ils ont un effet, ils ont, enfin, c'est fini, en fait. C'est fini.
Même si tu vois, ils gagnent 9 matchs, on sait que t'arrives en playoff avec Mason Rudolph ou deux coaches, c'est fini.
C'est un
C'est
peu,
comme
enfin.
quand les Raiders étaient arrivés en playoff avec Connor Cook.
Cook, oh ouais.
Tu vois. Ou les Texans avec TJ Yates sur un match. Pire
C'était
match
pas le
du coup.
même match?
Peut-être. C'était peut-être le même match. Mais
Oh,
TJ Yates aussi avait starté un match où il gagne finalement, je crois que c'était contre les Broncos. Non, contre les Bengals. Quand les Bengals étaient en playoff, c'était terrible à voir. Ça, c'est le match du samedi,
ouais.
le pré-match du samedi sur ESPN. Hein. Celui-là, il est.
On met toujours les Texans à cet endroit-là.
Exactement, toujours les Texans. Et non, mais je souscris à tout ce que tu as dit. Ils ont en plus ramené Ricky Brown. Je pense qu'il y a eu des. des trucs intelligents, tu vois, pas cher, et tu fosters et pas en retraite. Bon, tu peux te dire, il y a un peu, ça peut poser problème. Ils ont drafté un mec qui peuvent développer. Ils ont pris Wisniewski, qui est un mec qui était starter au Super Bowl avec les Eagles, qui était starter l'année passée avec les Chiefs aussi. Un mec qui est pas ouf, mais qui va savoir être là, et que si jamais il est backup, et ben, tu peux le faire jouer. C'est solide, en fait. Il y a toujours Kame Ward et Tuitt aussi. Ils sont de très bons joueurs, franchement, sur la ligne défensive. Ouais, peut-être, voilà, ils ont perdu Davis et puis Burns. Voir comment, je sais pas qui va devoir assumer des snaps pour eux, tu vois, là j'ai un trou. Mais avec Mike Tomlin, qui est un gourou des DB, qui est un ancien coach des DB d'ailleurs, je me dis que, voilà, à part Belichick, il y a que des très bons coachs, mais c'est peut-être le deuxième là, parce que c'est un vrai bon coach, un meneur d'hommes et tout ça. Tout est sur Big Ben, comme tu as dit. Est-ce qu'il va être en bonne santé? Est-ce qu'il a une, est-ce qu'il, je sais pas, par une hygiène de vie pareille? Enfin, c'est cataclysmique, je suis désolé, mais s'il est sur le terrain,
Alan
c'est...
est très hygiène de vie, hein, vraiment
Ah
ça.
non, mais t'as vu des fois les photos qu'il met avec sa grosse barbe, il est énorme. Enfin, je sais pas, c'est un petit peu de... Je sais pas. En tout cas, ils ont toujours su, tu le disais, faire progresser les receveurs qui draftaient. Donc là, même si l'année passée, Juju était un peu seul, on peut se dire que là, James Washington, Diontae Johnson, ça peut progresser. Et si ça progresse, ça ouvre le jeu. En plus, avec Big Ben.
Ouais, totalement. Et puis, comme tu l'as dit, Tomlin a... Alors, je faisais partie de ceux qui étaient extrêmement critiqués avec Tomlin. Et preuve que juger un coach sur ses résultats, c'est extrêmement difficile quand tu connais pas le contexte intérieur. Parce qu'avec le recul, tu te dis que Tomlin a fait un boulot extraordinaire d'arriver à canaliser quand même Antonio Brown et Le'Veon Bell pendant tant d'années. Bravo à lui. Je pense que c'est vraiment de tous les coachs, et je pense même de tous les personnages NFL, c'est celui qui a été le plus réhabilité la saison dernière, Tomlin, de très loin.
C'est clair.
Et c'est vrai que là, tu te dis que ils ont un peu tous les ingrédients. Après, moi, ma question, c'est que souvent, alors en bon fan des Ravens et avec un petit côté médisant, j'avais tendance à dire que les Steelers, c'était toujours les champions de l'intersaison, dans le sens où avant tout début de saison en AFC, tu mets toujours les Steelers très haut, et que sur ces dernières années, bah, ils ont jamais répondu vraiment présent. Alors, la structure de l'équipe est différente. Ça se repose un peu moins sur l'attaque et plus sur la défense. Mais moi, j'ai peur, en fait, encore une fois, de la responsabilité qu'on met sur Big Ben.
Mais tu me coupes si je me trompe, mais depuis qu'on... Ah si, ils avaient été en playoff après. Leur dernière fois qu'ils vont en playoff, c'est 2017 quand ils perdent contre les Jaguars.
Ouais, ils y retournent après, mais...
Mais tu vois, les deux dernières saisons, ils y vont pas. Ils sont là jusqu'au bout, mais ils y vont pas. Donc il y a peut-être ce truc, voilà. Je sais pas. De toute façon, pour moi, ils sont là, mais ils auraient dû faire mieux entre 2014 et 2017. Mais
Totalement, enfin.
ils ont pas réussi, quoi.
Après, c'est toujours intéressant de voir les équipes NFL quand elles arrivent très haut, qu'elles ont un effectif déséquilibré, elles vont investir dans leur déséquilibre. Le problème, c'est qu'en fait, ça va être déséquilibré dans l'autre sens,
La
parce qu'ils n'auront
défense,
pas
ouais.
investi dans l'autre. C'est-à-dire qu'en gros,
Exactement.
ils avaient une forte attaque, ils ont investi dans la défense monte, mais en fait, ils ont, l'attaque, elle n'a pas été assez considérée, donc l'attaque devient un problème.
Si tu
Ça, c'est...
draftes mal, en fait, faut bien drafter dans tes forces si jamais tu veux investir financièrement dans tes besoins. Bon. Si tu le fais pas, tu vas avoir les conséquences 2-3 ans après.
Puis après, pour Big Ben, en plus, j'ai peur, c'est l'AFC Nord. Alors, le pass rush des Ravens, c'est pas le plus dangereux, mais c'est une défense dont il faut se méfier. Les Browns mettent des coups de casque, je veux dire, enfin, il faut quand même, non, mais les Bengals restent une équipe qui, alors, une équipe qui est extrêmement chante. Moi, je suis prêt à parier beaucoup que les Bengals vont minimum battre une des trois grosses équipes de la division, voire deux. Ils
Ok.
vont vraiment, ils vont être extrêmement chiants, et j'ai peur que ce soit pas la bonne division pour Big Ben, pour passer une année tranquille et revenir sans blessure, ce qu'il fait jamais, en fait. Enfin, Big Ben est à constamment des petits pépins. On vous renvoie encore une fois à l'épisode, on a beaucoup parlé des Steelers. Donc ouais. La conclusion, Alan, je pense qu'on peut faire de cet épisode, c'est que, après réflexion, c'est quand même toujours très difficile
C'est flou.
de sortir un top 3.
Ouais. C'est flou, on n'a pas parlé des Bills d'ailleurs,
Ah,
que toi
erreur
t'avais...
incroyable.
Ouais, que
On
toi
n'a
tu
pas
avais
parlé des Bills.
deuxième et que moi j'ai plus loin. Quatri... Je les ai quatrième, les Bills.
Alors, vu que j'ai fait le plaidoyer pro, vu que j'ai fait le plaidoyer pro, enfin non, anti-Patriots en l'occurrence, Alan, je te laisse le plaidoyer anti-Bills.
Ok. Déjà, ils n'ont pas le même calendrier que l'année passée. Ils avaient un calendrier. Parce qu'en fait, quand ils avaient la première année de Josh Allen, ils finissent avec un bilan entre 10 et 14, je crois. Donc, hors de draft, hein. Pour ça qu'ils draftent Ed Oliver. Donc, ils avaient un calendrier plus simple l'année passée. Là, le calendrier n'est pas simple, hein. Déjà, comme nous, ils croisent avec l'AFC West. Donc, ils vont aux 49ers, ils reçoivent les Chargers. Non, ils reçoivent les Seahawks, pardon, ils vont aux Chiefs, ils vont aux Titans, ils vont aux Raiders, ils vont aux Broncos, ils jouent les Rams et ils jouent les Steelers. Donc pour moi, je trouve que le calendrier est plus compliqué, il est comme les Patriots d'ailleurs, il est compliqué comme les Patriots. Le truc, c'est que ils ont fait beaucoup d'ajouts, Stephon Diggs, Sean McDermott a ramené sa clique d'anciens des Panthers, donc Mario Addison, Vernon Butler, Josh Norman, qui joue toujours au football américain. Même AJ Klein, qui jouait aux Saints, qui maintenant joue qui a joué aux Panthers avant. Ils ont fait une draft que beaucoup de gens ont salué. Le truc que je me dis, tout simplement, c'est Josh Allen. Enfin, pourquoi je devrais faire confiance à une équipe qui a Josh Allen en quarterback? C'est-à-dire un joueur qui est capable des plus gros coups d'éclat possible, mais qui peut, je suis désolé, à lui tout seul te faire perdre un match. À lui tout seul, même avec ta défense qui fait un excellent taf, il peut te faire perdre le match. Exemple, quand les Patriots l'an passé, ils font un boulot phénoménal contre nous. On met 16 points, il lance 4 interceptions. Il fait n'importe quoi. Et donc des fois, il a des moments de coups d'éclat, puis des fois, il y a des moments de la fin de match contre les Texans de playoff, c'est un coup d'éclat. Deux énormes fautes de suite. Et donc je me dis, est-ce qu'il est coachable? Est-ce que voilà, année 3, normalement c'est maintenant. Et donc je suis pas prêt à parier pour ça en fait. Même s'il y a tout autour, je me dis qu'il va faire capoter. Alors la première année, il lançait que des bombes de loin et il n'avait pas de bon jeu intermédiaire. L'année passée, on a réussi à le faire devenir vraiment solide dans le jeu intermédiaire. Puis en fait, dans les bombes lointaines, il était devenu nul. Et donc c'est quel Josh Allen je vais avoir cette année? Il a plus d'excuses. Il a Stephon Diggs, il y a John Brown, qui a joué aux Ravens d'ailleurs avant, je crois, de mémoire. Cole Beasley pour le slot. Ils ont même petit Dawson Knox en tight end, c'est un super bon joueur. Il nous a fait du mal. Il a fait du mal à pas mal d'équipes. Ils ont une ligne solide. Tout repose sur ses épaules. Pour moi, et c'est pour ça que je l'ai un peu plus bas. Pour moi, il n'a pas d'excuses là cette année, Josh Allen.
Alors, je trouve le discours un petit peu, enfin, il faut les auditeurs vont apprendre à nous connaître, c'est un peu une de nos différences fondamentales. Je trouve le discours un peu QB centré quand même, même si je te rejoins sur un point, il est extrêmement bien entouré. Je me dis que encore une fois, et c'est un truc totalement débile que je fais tout le temps, et pourtant même moi j'avoue que c'est totalement débile. L'effectif hors QB, c'est un des plus blindés. Alors, on sait que la variance avec le poste de QB est énorme. C'est-à-dire que, enfin, un bon QB peut cacher un bon effectif, et un mauvais QB peut ruiner un très bon effectif. Je me dis juste que je pense que du côté de Sean McDermott et de ce coaching staff, on a compris que Josh Allen, et on a déjà vu le début de ça l'année dernière, on a compris que ce sera pas Aaron Rodgers, ce sera pas Patrick Mahomes. Il faut lui faire des courses. Il faut lui faire des quoi oui des runs de QB oui d'ailleurs la plupart de ses touchdowns au sol c'est sur ce genre de course. Il faut lui faire des petits jeux simples et c'est en cela où je me dis que l'apport d'un Stephon Diggs qui est arrivé pour courir des tracés précis, gagner des balles 50-50 parce que alors certes on dit déjà l'année dernière il avait des corps de receveur oui mais c'était le ce qu'on avait dit des Texans en fait c'était les trois petits poussés enfin je veux dire je veux dire, il n'y avait pas franchement de cible imposante. Et pour un, j'ai toujours tendance à dire, c'est peut-être un truc que les stats avancées ne vérifient pas du tout. Quand t'as un QB pas du tout précis, j'aime bien lui mettre des cibles avec une capacité de réception assez élargie. Parce qu'en
Catch
fait,
Matus.
ouais, exactement. Parce que techniquement, il a plus de chances de l'attraper.
De mal viser, quoi.
Ouais, voilà, tu vois, un ballon mal visé, il pourra potentiellement me l'attraper. Surtout que tu vois qu'un mec comme Cody Beasley, c'est quand même, ça doit être des tracés précis avec des lancers. Enfin bref,
timing et tout ça. Ouais.
Exactement, un Diggs aura plus de capacité d'adaptation. Je te rejoins sur pas mal de tes points. Je pense juste que pour moi, c'est pas de un, c'est pas totalement une cause perdue. Je pense que c'est là où on se rejoint pas. Et de deux, je pense que le reste de leur effectif est extrêmement, extrêmement blindé, en fait. Et, enfin, ils peuvent faire, c'est le mec qui a gagné, ça a fait, c'est l'info a été passée, comme quoi le mec qui avait gagné le tournoi Madden, NFL avait pas lancé une passe, bah, pour moi, ça peut être le projet des Bills, en fait, hein. Enfin, clairement, ils peuvent gagner en lançant, 4 passes cette année. Enfin, ça doit être leur projet. Après, je répondrai pas, les auditeurs doivent se dire, ils répondent pas à la question de Josh Allen, parce que, je suis comme toi, je suis un peu sceptique. Après, je maintiens mon argument que je pense pas qu'il faut un immense niveau pour être troisième en AFC cette année.
Voilà, on se rejoint là-dessus de toute façon. On se rejoint sur ça. Après, moi, je pense que Josh Allen peut. Franchement, il a toutes les capacités. C'est un monstre athlétique. Hein. Athlétiquement parlant, c'est un beau bébé. Il est puissant, il a un bon bras. Il fait. C'est juste. Est-ce qu'on peut le coacher, quoi? Il a un super staff à ses côtés. McDermott, c'est un coach vraiment sous-côté, même quand il les avait amenés en playoff, hein, avec Tyrod Taylor, sa première année du côté des Bills. Mais je me dis, voilà, que je préfère trois équipes. Les Steelers, que je trouve plus complet, et avec Big Ben.
Tu trouves les Steelers plus complets?
Plus explosif des deux côtés du terrain.
Ah, je suis trop dur. Les Bills ont des arguments quand même, je trouve. Enfin, ils ont une défense qui, encore une fois, un peu l'effet Titans, même s'il y a Trey Davis White qui fait beaucoup,
franchement,
fait beaucoup de bruit.
Qui pose tout le temps des problèmes. Là,
addition. Ouais, vas-y, vas-y.
C'est une équipe qui elle pose tout le temps des problèmes, la défense. Elle est toujours là. Être toujours chiante. Ils sortent toujours des mecs qui sont sous-cotés, qui arrivent à très bien performer. Donc, ouais, je suis d'accord que la défense. En fait, c'est moyen plus partout. Je me dis que sur des. Mais ils font jamais.
Ah, je te trouve dur, la défense, moi, je la considère très proche d'élite, en fait. Hein. Top 5 NFL.
Ouais.
Ouais, pour moi, ils sont élites en défense et ils sont médiocres, voire en dessous de ça en attaque.
Médiocre, la version anglaise du mot médiocre.
Ouais.
Pas la même version, parce qu'on en a fait dans la jargon français. Mais tu m'énerves.
En fait, moi, là où je voulais t'amener, c'est que. Encore une fois, je comprends le poids de l'argument Belichick, mais ôter l'argument Belichick, c'est les deux mêmes équipes et les Bills sont plus forts. C'est les deux mêmes équipes et les Bills sont juste plus forts.
Les individualités des Bills sont plus fortes. Et l'effectif est plus profond sur des positions clés.
Ah, il veut pas le dire. Il dit tous les synonymes, mais il ne dit pas les. Mais donc c'est pour ça. Après, bien sûr, j'ai toujours la question de Josh Allen parce que c'est en dehors de l'énigme Stidham, c'est le moins bon QB de toutes les équipes dont on a parlé aujourd'hui. On est d'accord que sa performance en playoff est, je vais être gentil, catastrophique. Donc il y a des questions qui se posent.
Après, t'as dit un truc très intéressant. T'as dit faut qu'il soit en attaque, faut qu'il soit. Tu vois, sur le sol, ça, le premier drive de playoff, tu sais, Dabble sort trois jeux gadgets et c'est là où ils avancent. Hein.
Mais il doit Josh Allen lancer combien? Sur un match de playoff, il doit lancer 15 passes, 15 va passes. Et ouais. Ils doivent jouer comme l'année où les Bears sont très bons, comment ils font jouer, Nagy fait jouer Trubisky.
Ouais.
Trubisky, il lance pas beaucoup de passes. Non. Il a des petits jeux gadgets pour des Tariq Cohen, etc. Et Et il prie la Vierge que la défense ne prenne pas plus de 20 points.
Ouais, c'est ça. Mais en même temps, j'ai quand même envie de voir s'il va y avoir une évolution parce qu'ils ont ramené Diggs. C'est-à-dire qu'ils veulent quand même. Moi, je pense, tu vois, ils sont pas dans l'idée que t'as toi. Ils sont dans l'idée de.
Ah, totalement, ouais, totalement.
Tu vois, donc
Mais
ça m'intéresse.
parce que c'est leur QB, en fait, hein. Tous
Ouais,
les
ouais.
mecs, tout le front office actuel, c'est le même qui a drafté Josh Allen. Donc forcément, ils veulent montrer qu'ils se sont pas trompés parce qu'ils savent qu'ils sautent. S'ils avouent leur défaite, ils sautent.
Exactement. Ouais, puis non, puis c'est la même draft que Lamar en même temps. Donc
Ouais. Ah bah, c'est sûr que Lamar avec son titre d'MVP, c'est un petit peu mis au-dessus de la mêlée, mais là, beaucoup des joueurs de cette draft-là entrent dans une année charnière. Mayfield avec un nouveau encore un nouveau coach.
Darnold.
Allen qui. Ouais, Darnold, Rosen, bah on sait pas où, mais il va entrer dans une année charnière aussi. Enfin, bref, ouais, vraiment une équipe des Bills. On vous invite à répondre du coup à quand vous avez demandé sur les réseaux sociaux, selon vous, qui est qui peut prétendre être la troisième meilleure équipe NFL. On se rejoint sur les Steelers, Alan et moi, et on a un petit ordre derrière un petit peu différent. Avant de récapituler l'ordre, Alan, juste une question. Premièrement, c'est pas trop une question, c'est juste pour te faire réagir. Je trouve que ces profils d'équipe, on l'a dit, défensifs, avec un QB sur lequel il y a des questions, c'est quand même potentiellement le pire profil que tu peux avancer contre les Chiefs et les Ravens. Et deuxième question, t'y crois à quel point ça? T'y crois, par exemple, aux Steelers que t'as classé comme l'équipe la plus dangereuse, t'y crois un petit peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout?
Un petit peu. Je me dis que les Chiefs seront des Chiefs. Les Ravens, ça va peut-être moins bien se passer que le run. Parce que vous êtes à 2-2 et ensuite vous perdez plus un match jusqu'au playoff. Ça va peut-être moins bien se passer. Il y aura peut-être des adversaires plus compliqués en termes de calendrier. Même si vous aviez quand même gagné votre division l'année d'avant. Donc vous aviez quand même un calendrier difficile sur le papier avant saison. Après, on ne sait pas ce que l'équipe donne l'année passée. Mais j'y crois un petit peu. Un petit peu.
Je te rejoins aussi, peut-être la gueule de bois pour les Ravens. J'ai peur que l'effectif soit totalement focus playoff, quitte à oublier qu'il faut déjà se qualifier pour les playoffs. Parce qu'on voit bien dans les déclarations, je comprends la frustration, mais ils parlent que de playoffs, vraiment que de playoffs, en mode il faut gagner playoffs. Même le front office est dans cette mood-là. Je me méfie un petit peu. Ouais, un petit peu pour les Steelers. On en parlera la semaine prochaine en NFC. Là où, pour moi, on va pas révéler les deux équipes qu'on met au-dessus en NFC, mais je serais surpris, limite, si on arrive à cette finale de conférence-là, parce qu'il y a toujours des petites surprises. En AFC, si on tape pas un Ravens Chiefs, mis à part blessure de Jackson ou Mahomes, je serais quand même extrêmement surpris.
Et on dit ça 9 mois à l'avance, donc 8 mois à
Ouais.
l'avance. Donc c'est qu'il y
Bah.
a c'est intéressant à dire quand même.
Bah, tu vois, on aurait fait ce petit exercice-là il y a l'année dernière. Je pense que dans le top 3 des équipes, on aurait mis Ravens, enfin, on aurait mis Chiefs, Patriots, Ravens.
Je pense qu'on aurait mis Patriots Chiefs en finale AFC
Ouais.
et Ravens en poursuivant. En premier
Ouais.
poursuivant avec peut-être les Texans qui gardaient quand même qui avaient une belle ossature en début d'année dernière, mais derrière les Ravens.
Ouais. Et bah du coup, c'est comme ça qu'on va finir cet épisode numéro 4 du podcast Le Safety. Alan, ton rappel de tes principaux dangers pour le duo Chiefs Ravens.
Ouais, donc les Steelers en premier. Les Patriots, les Texans, j'assume, les Bills, les Titans et les Colts.
Alors, on se rejoint sur le plus grand danger, hein, les Pittsburgh Steelers. Ensuite, rien à voir. Steelers, Bills, Titans, Colts, Patriots. Et alors, au fond de la charrette, les Texans. Alors,
T'as voulu refourguer dans l'équipe d'ombre en plus.
Ouais, franchement. Enfin, après, pour défendre les Texans, j'ai dit que les profils d'équipe étaient dérangeants.
Ouais, c'est
Je
les
pense que
seuls qui
c'est
n'ont pas.
l'équipe.
Ouais.
Ouais. C'est
Totalement.
les seuls qui ont, tu te dis, offensivement, ils peuvent exploser, mais c'est improbable. On va dire que c'est improbable pour être gentil. Voilà, voilà. On va rester gentil, mais on va juste parler d'improbable. Et ben c'est là-dessus qu'on va vous quitter pour votre bimensuel, le podcast Le Safety. Encore une fois, merci pour vos premiers retours. Et on vous invite, comme d'habitude, à réagir sur les réseaux sociaux. On vous avait fait réagir, comme je l'avais dit avant cet épisode. On avait vu que les Titans avaient encore une petite... pas une hype, mais beaucoup de personnes croyaient dans les Titans, peut-être un peu plus que nous, et peut-être un peu moins en Steelers, faudra voir. Enfin, il y a les questions, je pense que tout le monde se rejoint autour de la question de Big Ben. En tout cas, réseaux sociaux, la plateforme où vous écoutez le podcast Le Safety, on vous invite à nous écouter sur cette plateforme, à nous noter, si c'est Apple Podcast, à nous noter, ça aide toujours les podcasts à se développer, donc on vous en remercie. Puis Alan, on se retrouve dans 2 semaines. Rendez-vous en terre inconnue pour nous, parce qu'on va parler de NFC.
Ouais, on maîtrise moins.
Ah. On maîtrise tout de suite moins. Et ben du coup, on vous souhaite une très bonne semaine et puis à très vite. Salut.
Salut.